6h46 sur France Culture. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Millet.
Alors, au sommaire des enjeux, une question: qui tient encore la barre idéologique à Cuba?
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
La barre idéologique et la barre diplomatique, puisque renouveler l'espoir, renouveler les rêves et par-dessus tout, établir une vision pour les 10 ans à venir, c'était les mots du président vénézuélien Nicolas Maduro, premier chef d'État à visiter Cuba, visite assez classique pour un régime en transition. Bonjour Jeannette Abel.
Bonjour.
Merci d'être venu, maître de conférence à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, spécialiste de Cuba, bien sûr. Alors avec ces doubles directions de Miguel Díaz-Canel, président du Conseil d'État, à côté de Raúl Castro, premier secrétaire du Parti communiste, Cuba rompt, on l'a dit, avec 60 ans de castrisme exclusif, période donc expérimentale jusqu'en 2021 sur le plan intérieur et international, puisque ce changement intervient lui-même au cours d'une autre expérimentation, on pourrait dire diplomatique. C'est le rapprochement avec les États-Unis depuis 2014, toujours en discussion, même si ralenti par Donald Trump. Alors il y a deux manières de voir les choses, hein, Jeannette Abel, ou bien la survie d'une diplomatie cubaine post-castriste, ou bien une conjonction extraordinaire de pragmatisme entre l'administration Trump et justement Canel. Là, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Les personnes au poste clé, donc Miguel Díaz-Canel et son équipe, au pouvoir limité par l'hégémonie du Parti communiste, mais figure active à l'étranger. Et puis la réforme économique, ce qu'on appelle l'actualisation du modèle, c'est le mandat explicite de Canel qui est urgente pour Cuba. Et finalement aussi un régime de plus en plus isolé dans une Amérique latine qui revient à droite ou avec des anciens régimes révolutionnaires en pourrissement. Cuba en tension perpétuelle avec l'Organisation des États américains d'ailleurs. Alors la diplomatie cubaine serait-elle justement ce pilier de l'après-castrisme? On voit ça, Jeannette Abel. En tout cas, cette alliance avec le Venezuela, l'allié historique, hein, on l'a dit, c'est ce fameux accord pétrole contre médecin. Qu'est-ce que ça veut dire? Continuité diplomatique, c'est ça?
Oui, enfin une continuité diplomatique qui est quand même relativement affaiblie sur l'ensemble du continent parce que, outre la crise très grave au Venezuela, il y a maintenant une crise grave au Nicaragua avec des manifestations qui se sont heurtées à la répression du président Daniel Ortega. Donc sur l'ensemble du continent, si on regarde l'affaiblissement de Lula au Brésil, Lula qui est emprisonné, qui était un allié important pour la Havane, l'Argentine avec le président Macri, ça n'est plus les Kirchner non plus. Autre affaiblissement. Même l'Équateur, où le président Correa a été remplacé par Lénine Moreno, qui est un président dont on ne sait pas encore très bien dans quelle direction il va aller, mais qui représente un vrai changement. En bref, à part Maduro et le fait qu'il va y avoir une élection présidentielle au Venezuela au mois de mai, qui est une élection incertaine, eh bien il reste Evo Morales, le président bolivien. Donc c'est une alliance qui est fragilisée sur l'ensemble du continent. Si on pense également que la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, qui avait été mise sur pied par Hugo Chavez et qui avait connu un réel développement ensuite, eh bien, est désormais dans une mauvaise situation, et on l'a vu avec la faible participation des chefs d'État lors de sa dernière réunion. Et donc voilà une diplomatie plus en difficulté compte tenu de ce contexte.
En difficulté dans ce contexte, mais compte tenu du grand contexte américain, est-ce qu'il s'agit d'envoyer plus un message, disons, de réassurance au Venezuela et à cette fameuse ALBA, Alliance Bolivarienne, ou alors d'envoyer un message aussi à l'administration américaine, dont on sait que Cuba continue d'attendre quelque chose malgré ce refroidissement des relations diplomatiques?
Il est incontestable que les relations avec les États-Unis sont décisive pour la Havane, très importante. Et donc, malgré les difficultés auxquelles on a pu assister, l'histoire des maladies de l'audition.
Donc ça, c'était la crise de l'été dernier qui continue, hein, d'ailleurs.
Oui, bizarre, dont personne n'a été en mesure de dire quelle en était la cause. Il y a évidemment un enjeu décisif. Alors, Mike Pompeo, qui est l'ancien directeur de la CIA et qui maintenant est secrétaire d'État nommé par le président Trump, a fait une déclaration quand même qui est intéressante, puisqu'il a dit que il allait étoffer l'équipe diplomatique de l'ambassade américaine à Cuba, puisqu'il y a toujours des relations diplomatiques. Un nouvel ambassadeur, enfin chargé d'affaires parce qu'il n'a pas encore le titre officiel. Et on peut supposer que derrière tout cela, il y a les intérêts des lobbies nord-américains, des lobbies économiques. Et ce sont des lobbies qui n'ont pas les mêmes intérêts qu'un autre lobby, celui qui entoure Marco Rubio, qui est
le sénateur de Floride.
Et d'autres élus, d'autres représentants d'origine cubaine, des cubano-américains qui sont très actifs, qui eux militent pour le renversement en fait du régime castriste, alors que le lobby des biotechnologies, le lobby de l'agro-business, ainsi que le lobby pétrolier même, eux sont quand même très favorables à la restauration des liens commerciaux, des échanges, parce qu'ils voient ce marché cubain qui n'est pas immense, mais qui est tout proche, leur échapper, et leur échapper au profit de la Chine en premier lieu, au profit aussi de la Russie, au profit de l'Union européenne. Il y a un accord maintenant entre Cuba et l'Union européenne, et ça, ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, il y a une pression qui s'exerce sur le plan économique et commercial de la part de ces lobbies, pour au moins pouvoir faire des affaires, occuper le terrain sur le marché cubain, ne pas le laisser à d'autres.
Et de ce point de vue-là, l'administration Trump pourrait, sous cette pression, être amenée à réinfléchir de nouveau ses positions, sachant qu'elle avait rétabli cet embargo. Et c'est intéressant, d'autant plus, je parlais des personnes qui ont été nommées, cette volonté d'étoffer cette équipe diplomatique, comme l'a dit Mike Pompeo, avec Philippe Goldberg, notamment, très expérimenté aujourd'hui, enfin qui n'a pas le statut d'ambassadeur, mais chargé d'affaires. Ça veut dire qu'on est déjà dans cette intensification, finalement, post-crise.
Oui, en tous les cas, qu'il y a peut-être une toute petite fenêtre d'opportunité. Alors, du côté américain, il ne faut pas se tromper, il s'agit de justement de mettre à profit des liens commerciaux, etc., et de pouvoir peser sur l'évolution intérieure à Cuba.
C'est ce qu'avait dit Donald Trump.
Ouais. Voilà, mais dans une situation cubaine très difficile, il ne faut pas l'oublier, la situation économique, sociale, politique sur tous les plans, et évidemment régionale, est très compliquée. Donc, de peser sur cette situation grâce à des investissements et en prenant des parts de marché là où c'est possible à Cuba. C'est ça l'objectif du côté américain. Du côté cubain, on est prêt à saisir même la moindre opportunité. Finalement, les réactions de La Havane à l'égard de Donald Trump, bien sûr, ont été virulentes dans le langage, mais tout compte fait, on n'a pas chargé la barque, on est resté avec un langage quand même modéré, sans surcharger les accusations. Donc, si jamais il y a une petite porte qui s'ouvre de ce côté-là, la diplomatie cubaine, qui est une diplomatie très réaliste maintenant, très pragmatique, y compris à l'égard du continent, qui mène plus une réelle politique, une politique d'État, s'en saisira, il n'y a pas l'ombre d'un doute.
Peut-être un des points les plus difficiles, c'est cette relation de Cuba avec l'OEA, l'Organisation des États américains, qui, elle, pousse clairement pour un changement de régime, on va dire, plutôt brutal, qui a du mal à reconnaître cette transition encore dans cette dernière déclaration. Est-ce que ce n'est pas elle qu'il va falloir convaincre et infléchir, et les États-Unis pourraient jouer un rôle?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, ces relations difficiles avec l'Organisation des États américains, l'OEA, n'est pas nouvelle, elle est très ancienne. Et quand en 2009, finalement, l'OEA a reconnu qu'il fallait réintégrer Cuba en son sein, puisque Cuba en avait été exclu en 1962, ils l'ont reconnu et Cuba a refusé de réadhérer, d'être de nouveau membre de cette OEA. Alors c'est vrai que cette OEA, cette Organisation des États américains, est très offensive, mais franchement, son poids est quand même relatif, même si elle regroupe de très nombreux États d'Amérique latine et des Caraïbes. Et les Cubains traitent ça avec un certain dédain, avec une certaine indifférence. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des États-Unis en tant que tels.
Ils appellent ça le ministère des colonies des États-Unis, voilà. Je crois, lorsqu'ils sont les plus virulents.
Oui, oui, c'est ce que Fidel Castro l'a toujours caractérisé ainsi. Et ce qui est le plus significatif, je le répète, c'est que Cuba a refusé de réintégrer l'OEA et que la CELAC, cette organisation latino-américaine et caribéenne qui regroupe tout le monde, a pour but d'être un contrepoids à l'OEA tout en rassemblant tout le monde. Le problème, c'est que Cuba y avait une influence beaucoup plus grande au moment où Lula était président, les Kirchner en Argentine aussi, etc. Alors que maintenant, bon, tout cela a basculé à droite, et donc le poids de la Havane est beaucoup plus faible, et la crise devenue au Venezuela, bon, maintenant au Nicaragua, même si le Nicaragua c'est un tout petit État, mais n'arrange pas les choses.
Et alors précisément, si Cuba peut chercher de potentiels nouveaux souffles ou nouveaux appuis dans ce contexte, vous l'avez dit, il y a ce revirement assez extraordinaire quand même aussi avec l'Union européenne, puisque là pour le coup les relations diplomatiques reviennent très très fort, et il y a une diversification tout aussi intéressante et beaucoup plus vaste. Finalement, on voit une visite de Shinzo Abe, donc accord avec le Japon, accord avec le Mexique également. Qu'est-ce que recherche Cuba, disons, la diversité maximale des partenariats ?
Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'une part que la Chine prend une place prépondérante à la Havane, suivie par la Russie, notamment pour le matériel militaire. La diplomatie cubaine, qui est très expérimentée aujourd'hui, cherche une chose, une diversification maximale de ses relations diplomatiques avec tout le monde. Et à tirer une leçon très importante de ce qui s'est passé avec l'Union soviétique, plus jamais de relations privilégiées avec un seul pays, y compris même, c'est vrai, même avec le Venezuela.
Eh bien, la leçon est bien comprise. Merci beaucoup, Jeannette Abel, chercheuse à l'Institut des hautes études d'Amérique latine, spécialiste de Cuba.